tournez dans vos Bibles, Proverbes chapitre 30. On va parler une parole d'introduction, mais on va commencer à penser sur ce sujet aujourd'hui. On va parler de l'œuvre accomplie, ce que Christ a fait pour nous. Proverbes chapitre 30. On a le verset 1, c'est l'identification de la personne qui écrit le proverbe. Au verset 2, il est dit, je suis plus brutal, dites ça avec moi, je suis certainement plus brutal que tout autre homme. Dites ça à votre voisin, certainement je suis plus. Verset 1 et 2, j'ai pas le mot en français vraiment, mais vous pouvez lire dans votre version Bible. Voici la définition du mot brutal. Combien d'entre vous connaissez ce mot vraiment? Apparemment, c'est brutal, on va voir. Dans notre diagramme, souvent, on dessine la maison avec deux niveaux. Le premier niveau, la vie naturelle au rez-de-chaussée, et le premier étage, la compréhension spirituelle de la réalité de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans le rez-de-chaussée uniquement. Et c'est comme cet homme, ça veut dire stupide en fait, barbare. D'être comme un troupeau, de chercher uniquement à manger l'herbe. À quoi pensent les animaux? La nourriture, survivre, chasser. Les animaux domestiques qui mangent l'herbe. Et c'est comme ça que les gens peuvent être. Uniquement ce que je veux, c'est mon déjeuner. Une maison chaude, la nourriture à manger. Pasteur James et AJ, c'est bien de voir ce couple. Il y a une église à Edgewood. On a commencé dimanche après-midi à 16h dans la petite ville d'Edgewood, à 30 minutes d'ici. On a commencé une église. Je suis, je sais pas le mot, brutal, naturel, sauvage. Le psaume 73. Le collège biblique va commencer dans 2 semaines, le 25 janvier. Allez au collège biblique. Oh, le collège biblique. Vous allez voir dans le message aujourd'hui. Incroyable. Regardez au verset, s'il vous plaît. Je suis plus sauvage que tout autre homme qui a la compréhension de l'homme. J'ai une compréhension limitée. Je comprends pas. C'est quoi que tu ne comprends pas au verset 3? J'ai besoin d'apprendre la sagesse. Je n'ai pas appris la sagesse. Je ne comprends pas. J'ai la connaissance, mais comme les troupeaux, les vaches, comme ils savent manger, c'est que cela que j'ai moi. Je n'ai pas la sagesse. J'ai besoin de quelque chose de plus grand. Je la connais pas. Je ne l'ai pas dans mon cœur. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui manque. Frères et mes sœurs, mes frères, réalisez-vous, on vit dans un monde où il y a beaucoup de gens qui vivent une vie normale et naturelle. Ils n'ont pas trouvé le trésor caché dans le champ. Ils n'ont pas trouvé Christ. Ils n'ont pas trouvé Christ. Regarde ce qu'il est écrit ici. Verset 3. Je n'ai pas appris la sagesse et je n'ai pas non plus la connaissance du Saint. Je n'ai pas la connaissance du Saint, de celui qui est Saint, le premier étage de la maison. Je n'ai pas la connaissance de Dieu. Je n'ai pas la vérité. Ensuite, il est dit, il est écrit au verset 4, qui est monté au ciel? Pourquoi est-ce qu'il dirait cela? Parce qu'il dit, tu devrais savoir cela. Mais moi, je ne connais pas ça. Je ne sais pas qui est monté au ciel. Mais nous savons, n'est-ce pas? Qui est monté au ciel? Jésus. Qui d'autre est monté au ciel? Nous. Nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous avons été assis. Lorsque ça s'est passé, ça, le moment où j'ai cru, on est mort avec lui, on est ressuscité avec lui, on est monté avec lui et on est assis en lui. Mais qui a cette connaissance? Qui vraiment a cette connaissance? Pas les troupeaux, les bêtes qui ont juste leur nourriture, ou bien les êtres humains qui juste uniquement prennent une douche, mangent leur petit déjeuner et vont au travail. Tu dis, est-ce que tu sais qui est monté au ciel? Le gars te dit, je ne sais même pas s'il y a un ciel. Je ne connais rien à propos de ça. De quoi est-ce que tu parles? Qui peut savoir ça après tout, en fait? Qui est descendu au verset 4? Qu'est-ce que vous savez? Qui est descendu? Jésus-Christ est venu. Il est venu, il a descendu. Qui d'autre? Le Saint-Esprit a été envoyé. Il nous a été envoyé. Il a descendu. Il a demeuré en nous. Il est avec nous. Comment tu sais ces choses-là? Je ne sais pas. Comment tu sais ces choses-là? La Bible. C'est comme ça que tu sais ça. Tu ne connais pas ça naturellement. L'homme sage dit, je suis un sauvage. Je suis comme stupide. Je n'ai pas la connaissance de ces choses profondes, la réalité invisible. Je ne sais pas qui est monté. Je ne sais pas qui est descendu. Quoi d'autre il dit qu'il ne connaît pas là? Il est écrit que lui, il ne sait pas. Verset 4. Qui a rassemblé les vents dans sa main, dans la paume de sa main? Dieu a tous les vents dans la paume de sa main. Il a toute l'autorité sur tous les vents. Quoi d'autre il ne connaît pas? Qui a rassemblé les eaux comme un vêtement? Dieu. Qui a établi les extrémités de la terre? Dieu. C'est quoi son nom? Je ne connais pas le nom de Dieu. C'est quoi son nom? Yahweh. C'est quoi son nom? Et c'est quoi le nom de son fils? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas écrit? C'est quoi le nom du fils de Dieu? Parce que c'est la Bible écrite. Sans erreur, sans faute. C'est quoi le nom du Fils de Dieu? Jésus-Christ. Qui le connaît? Je suis sauvage, moi. Je suis comme un homme qui boit vendredi soir, lundi matin, je vais au travail. Je regarde le football américain, mon équipe est dans les playoffs. C'est comme ça que je vis, que j'habite. L'écrivain dit, tu n'as aucune connaissance du Saint. Tu n'as aucune connaissance de Dieu, tu ne connais pas son nom. Tu ne sais pas qui il est et qui c'est qui tient toutes choses ensemble, n'est-ce pas incroyable? La partie suivante, il est écrit. C'est quoi le nom de son fils? Qui peut nous dire? Qui peut répondre à ces questions-là? Écoutez, ça c'est tellement incroyable. Ce texte est incroyable. On peut passer tellement plus de temps. Qui? C'est quoi le nom de son fils? Si tu peux dire ça, si tu peux répondre. Beaucoup de gens disent, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas. Pourquoi? Regarde au verset suivant, verset 5. Chaque parole de Dieu est pure. Pourquoi est-ce qu'il est écrit là comme ça? Ça, c'est la parole de Dieu. Et pur, ça signifie, le mot pur signifie, ce n'est pas comme un métal qui mélange les métaux, ou comme le vin qui mélange avec l'eau, ce n'est pas des choses qui sont mélangées ensemble, mais c'est quelque chose de pur, c'est droit, c'est propre, c'est pur, la parole de Dieu est la réponse à toutes ces questions-là. Et ça, c'est comme ça que tu le sais. tu connais les réponses à ces questions par la parole de Dieu. Et lorsque Jésus est venu, il a dit, l'homme ne vivra pas que de pain seulement. L'homme ne vivra pas comme un sauvage, un barbare, comme un animal. Il veut juste manger l'herbe, brouter l'herbe. Mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole est pure. Cette parole te donne la connaissance du Très-Saint. C'est la clé pour notre nouvelle vie. C'est la parole de Dieu qui me donne, qui illumine ma pensée, qui a une influence sur moi, dans ma communion avec Dieu par la foi. On mélange la foi avec la parole de Dieu. Tu prends la parole pure, tu mélanges ça avec ta foi. Et tu as la connaissance du Dieu très saint. Et tu réalises que les réponses à ces questions, qui est monté? Christ. Et nous aussi. C'est une chose commune parmi les chrétiens. Qui est monté? Christ. Oui. Mais quoi, par rapport à nous? Quoi? Nous sommes montés aussi. Oui, le temps aoriste dans le grec. C'est un état parfait. Ça signifie, dans un sens, c'est simplement de cette façon, ça ne change pas. La porte est fermée, point à la ligne. Il n'y a rien que tu peux faire. Le futur de la porte, il est compris que la porte est fermée et elle demeure fermée. C'est fait, c'est fini, la porte est fermée. Lorsqu'on est monté, c'était accompli, c'était fini. On est monté, on est assis avec Christ en Dieu. Comment est-ce que tu sais ces choses-là? La Bible est pure. La Bible le dit. C'est de ça qu'on va parler ce matin. C'est comme un trésor perdu un peu. Il y avait un homme en 1991. Il est allé au marché aux puces, il a acheté une vieille tapisserie, une peinture. Derrière ce tableau de la peinture qu'il a acheté, il y avait un document très vieux, comme une lettre. Il a ouvert ça. Il a trouvé un grand trésor, une copie de la Déclaration de l'indépendance. Ça avait la valeur de $1 million. Il avait acheté ce cadre pour $1. Et ça a terminé que la valeur de ce cadre-là, c'était $1 million. Un contrat a été trouvé dans une salle de bain. Quelqu'un qui a remodelé une salle de bain. Quelqu'un qui a trouvé $182 000 dans le mur de la salle de bain quand il avait coupé pour reconstruire. Quelqu'un a acheté un vase chinois pour $3. Le trésor, ça, quelqu'un a fait analyser, ça a coûté $2.5 million la valeur. Quelqu'un a trouvé dans leur jardin une valeur de $10 million, un autre objet. Il y a des gens qui trouvent des trésors, et je veux vous dire, ce de quoi on parle aujourd'hui, c'est le plus grand trésor que quiconque peut trouver. Lorsque tu sais qui est monté, qui est descendu, qui a la puissance, c'est quoi son nom et c'est quoi le nom de son fils, tu as trouvé quelque chose d'une valeur incroyable, précieuse, un message, un ministère, quelque chose d'une valeur incroyable que les gens ont besoin, la vie éternelle, le pardon des péchés, le don de Dieu, mon nom écrit dans le livre de vie. Ça, c'est précieux. Ça n'a pas de valeur. Merci, Seigneur. Priez avec moi. Seigneur, on prie pour ce culte ce matin, qu'on réalisera ce que l'on a. Ce que l'on a. Merci, Seigneur. Montre-nous par ton esprit. Révèle-le à nos cœurs. Avec le temps, petit à petit, on apprend et on comprend ce que cette vie est à propos. Au nom de Jésus, enseigne-nous. Amen. Trésor éternel, incorruptible, qui n'est pas souillé, un trésor qui ne peut pas, il ne peut pas disparaître. Regarde ce qui se passe. L'argent peut disparaître. Quoi d'autre on peut dire? Asseyez-vous. Avez-vous jamais pensé dans la Bible toutes les choses qui sont perdues lorsque tu lis la Bible? C'était quoi la première chose perdue? L'innocence de l'homme a été perdue. Il a perdu quoi? Ève, je t'ai dit, Adam et Ève, le mariage est allé sous le stress. Là. Ils ont perdu le jardin. Ils n'avaient pas la vie éternelle. Au travers de la Bible, tu lis, tu vois tellement de choses perdues. La pièce perdue, la brebis perdue, le fils perdu. Les batailles avec Israël qui étaient perdues, les royaumes perdus, des boucliers en or qui sont perdus, le tabernacle est perdu. Tu te rappelles le film? Tu te rappelles c'est quoi qui a été perdu avec l'arche avait été perdue. L'arche. Avant que les Babyloniens arrivaient, ils ne savaient pas où l'arche était Noé. Ils pensaient que Jérémie l'avait caché. Combien de choses perdues, des hommes perdus, des âmes perdues. Et nous sommes des sauvages un peu. On ne réalise pas ce que j'ai perdu en fait. Et connaître Dieu, qui est le donateur, il donne, il restaure mon âme. N'est-ce pas? Restaure les années que les vers ont mangé. J'ai perdu beaucoup de temps, mais Dieu rachète le temps. J'ai perdu un ami. Est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que Dieu peut me visiter et me donner des trésors? Donne-moi quelque chose, je ne peux pas perdre. Je me rappelle, j'étais dans un pays, j'essayais de faire un coup de téléphone, les vieux téléphones, circulaire, tu mets ton doigt et tu tournes là. Un téléphone vieux, d'il y a 30. Mon pied était sur mon sac, afin que je puisse sentir mon sac. Il était dans un pays étranger. Je regarde en bas et mon sac avait disparu tout d'un coup. Mon pied apparemment était endormi, comme quand on a des fourmis. J'ai pas senti mon sac qui avait été enlevé. J'ai garé ma voiture, je suis allé dans un appartement. Ma radio dans ma voiture était partie. J'étais allé dans un appartement quelques minutes. C'était le voleur le plus rapide. J'ai perdu de l'argent sur un avion. J'ai perdu un chien. On a récupéré. Le chien était récupéré. J'ai téléphoné à la compagnie d'aviation et j'ai récupéré mon argent dans l'avion. En quel siècle ça s'est passé? Le siècle dernier. L'homme a besoin de bien plus que des bonnes circonstances. Il a besoin de Christ. Tournez dans Jean chapitre 6. On va regarder à deux textes ce matin. Ensuite un autre dans Romains chapitre 8. Et on va lire l'histoire. Romains chapitre 6, verset 14. Verset 16. Jean 6, 16. Lisez donc. Ils sont allés vers Capernaum. Il faisait nuit et Jésus n'était pas venu vers eux. La mer s'éleva avec un grand vent. Donc je ne sais pas la distance là. Lisez donc en français. Ils étaient effrayés. C'était la nuit, il y avait une tempête, le vent. Et lui, il leur a dit, ne soyez pas effrayés, c'est moi. Immédiatement, le bateau arriva là où il devait arriver, de l'autre côté de la berge là-bas. Je veux que vous voyiez une chose dans cette histoire. La mer de Galilée est 6 km large et elle fait 20 km de long. Peut-être ils étaient là, peut-être ils étaient là, on ne sait pas vraiment exactement. Mais donc il y a la mer de Galilée, il y a une tempête. Ils voient Jésus qui marche sur la mer. Ils le reçoivent dans le bateau. Ils montent. Immédiatement, ils sont de l'autre côté là-bas. On pense à la vie en tant que procédé. Le temps, on processe le temps, ce que je fais. On va de l'autre côté, on traverse là. Cette histoire, ce n'est pas envers ce qui se passe là, mais c'est à propos d'une personne. C'est à propos de Jésus-Christ qui vient, qui monte dans le bateau. Lorsqu'il monte dans le bateau, le processus là, c'est fini. Immédiatement, ils étaient de l'autre côté. Ça, c'est très, très important parce que c'est surnaturel. C'est extraordinaire. C'est différent, c'est nouveau, c'est frais. Comment est-ce qu'on est arrivé ici? Pierre, Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est monté sur le bateau. Tout d'un coup, immédiatement, on était de l'autre côté. Comment ça s'est passé? Jésus l'a fait. Il a fait. Ça peut illustrer ce qui s'est passé envers vous et moi lorsqu'on croit en Jésus. On va mettre sur l'écran certains de ces versets. Dans l'œuvre accomplie de Christ, on a cette phrase. Il a dit, vous vous rappelez la première chose dans Luc chapitre 2. Il avait 12 ans. C'est quoi la première chose qu'il a enregistrée que Jésus a dit? Je dois être aux affaires de mon Père. C'est quoi la dernière chose qu'il a dit? Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Mais dans la même phrase avant ou deux, il dit, en même moment, il a dit, tout est accompli. C'est fini. Je dois faire l'œuvre de mon Père. C'est fini. C'est quoi qui est fini? Le travail de mon Père que j'avais commencé lorsque je suis venu dans le monde. C'est accompli. Les gens sauvages, les gens qui sont comme des animaux, nous sommes un peu tous comme ça. Mais les gens qui ne savent pas ce qui se passe, qui est monté au ciel, qui est descendu, qui a les vents dans sa main, dans les paumes de sa main, c'est quoi son nom? C'est quoi le fils, le nom de son fils? Est-ce que quelqu'un connaît ça? Oui, nous connaissons. Oui, nous le connaissons. Le Saint-Esprit nous a enseigné. La Bible nous parle. Oui, nous savons. Quoi d'autre est-ce que tu sais, que tu connais? Je sais et je connais que la vie est bien plus qu'un processus. Souvent, en tant que chrétien, on pense, j'ai besoin de prier. Si je prie, on va arriver là. J'ai besoin d'étudier. Si j'étudie, je vais arriver là. Je vais être obéissant. Si j'obéis, je vais arriver là. C'est comme ça que l'on pense. Mais cette histoire, c'est à propos de quelque chose d'autre. On a un temps difficile, on se bat avec le bateau là. Jésus marche sur l'eau. Pourquoi est-ce qu'il marche sur l'eau? Parce qu'il nous dit quelque chose. Les gens sauvages ou les gens qui sont uniquement sur un niveau de la vie, uniquement, ils ne nous comprennent pas. Et ils ne le comprennent pas lui. Et c'est ce qu'on a besoin. Ce qu'on a besoin dans notre pays, mes frères et mes sœurs, ce qu'on a besoin dans notre voisinage, les gens avec qui on travaille, les gens qui se battent, qui ont des combats, ça va pas être plus facile. Je vous demande de lire Ésaïe chapitre 59. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des étudiants de la Bible. Lisez Ésaïe 59 pendant la semaine, plusieurs fois. C'est là où beaucoup de gens sont en train d'habiter, de vivre. Ils se battent avec le processus. Comment est-ce que je vais arriver là? Comment est-ce que j'amène mon bateau au travers de la mer de Galilée pour traverser? Il y a une tempête. Mon fils est en prison. Je suis accroché. J'ai une addiction. Je suis déprimé. Je suis seul. Je suis vide. Je suis pas marié. J'ai pas une famille. Je passe aussi comme ça. Ça continue. Ce monde est dans beaucoup de problèmes parce qu'on a abandonné Dieu. Nous sommes comme des sauvages. On a laissé Dieu. Qui est monté au ciel? Il n'y a pas de Dieu. Qui est descendu? Je ne sais pas, il n'y a rien d'autre. Mange, va prendre une sieste, va dormir avant du bon temps maintenant parce que demain on va mourir. On a déjà fait tout ça. On a déjà vécu comme ça. On a fait tout ça. Beaucoup d'entre nous. Parfois, je vois des gens qui sont nouveaux, ils viennent ici, je leur dis, bienvenue. Beaucoup de gens dans notre église ont eu des problèmes de drogue, ils ont eu des problèmes avec l'alcool, ils ont eu beaucoup de problèmes avec d'autres choses, malheureusement, et des passés de pécheurs. Bienvenue. Oh, je ne sais pas moi si je dois rester ici. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas à propos des gens. C'est à propos de Jésus qui monte dans ton bateau. C'est à propos de ça. Jésus monte dans le bateau et immédiatement, qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu, on est perfectionné pour toujours. C'est fini. On a besoin de se perfectionner nous-mêmes. Non. Ce n'est pas ce qu'on dit aujourd'hui. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Oui, il y a une croissance, il y a un processus, bien sûr. Mais derrière ça, il y a une mentalité qui dit, vous et moi, on n'aurait pas pu traverser la mer de Galilée sans Jésus-Christ. Lorsqu'il monte dans ton bateau, immédiatement, tu es de l'autre côté. Laissez-moi vous dire ça d'une façon différente. Tu ne peux pas vivre le genre de vie que Dieu t'a créé pour vivre sans Jésus-Christ. Tu peux vivre comme un sauvage. Les chiens et les chats vivent leur vie comme les animaux. Bien sûr, tu es bien plus qu'une vache, qu'un chat, qu'un chien. N'es-tu pas créé dans l'image de Dieu? N'as-tu pas la pensée de Dieu? Qui connaît la réponse? La parole de Dieu est pure. Et elle me révèle que nous sommes bien plus que nos hormones et nos tripes. Et nos impulsions, et nos désirs, et nos passions, nous sommes bien plus que ça. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Nous sommes précieux à ses yeux. On a trouvé un trésor. On a trouvé un trésor en Christ, dans les Écritures. Qu'est-ce que tu veux dire? On est accepté dans le bien-aimé. On est accepté dans sa famille. Une année, j'étais au Timonium, dans une fête là-bas. Il y avait un petit truc où tu joues, tu vas jeter des boules en plastique. Là, tu essaies de faire tomber des boîtes et tu vas gagner quelque chose. Il y avait un petit garçon. Il est handicapé de ses mains. Avec ses pieds, il essayait de jeter ses balles. Et sa famille était avec lui. Ce garçon, il était handicapé, mais la famille était consciente du bon temps qu'ils avaient, de la joie qu'ils avaient là. Dieu n'a pas honte de vous appeler frère. Il a dit, vous êtes juste comme moi. Imaginez Dieu, le Saint, le Dieu Saint, qui vous accepte dans le bien-aimé et qui dit, je ne vous connais pas selon vos péchés. Je t'ai pardonné. Je t'ai lavé, tu es propre, par le sang de mon Fils. On a trouvé un trésor. On a trouvé Dieu. Il y a 68 versets. Tu peux trouver, donc, Pasteur Steve, il va faire ça, tu peux lire les versets. Sur l'internet après le message, ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait, 68 versets. Il y en a eu, on en a mis que quelques-uns au tableau là. Nous sommes qualifiés. Colossiens 1, 12. On a été acceptés. Éphésiens 1, 6. On a été acceptés. Ça s'est passé. Comment? Par un processus? Non. Immédiatement. Acceptés et qualifiés par Dieu. 1 Pierre 2, 5. Romains chapitre 3. On est justifiés, rachetés. La propitiation. Dieu, on a été accepté par lui. Verset 25, Romains chapitre 3, 2 Corinthiens 5, 19 à 20, on est accepté, c'est fini. Jésus-Christ a terminé son œuvre. Immédiatement, notre bateau est de l'autre côté de la mer de Galilée. Immédiatement, je suis assis avec lui dans les lieux célestes. On a été fait juste par Dieu, rendu juste par sa grâce. On est crucifié avec Christ. On est enterré avec Christ, Romains 6, 4. On est ressuscité avec Christ, Romains 6, 4, Éphésiens 2, 6. On est assis dans les lieux célestes, Éphésiens 2, 4 et 6. Romains chapitre 8, la deuxième partie de notre message. J'ai dans mon cœur que vous soyez vraiment enracinés dans cette vérité-là. Parce qu'un jour, tu peux avoir un mauvais jour. Dites ça à votre voisin. Ayez un bon temps avec votre voisin. J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour toi. Un jour, tu pourrais avoir une mauvaise journée. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu une mauvaise journée récemment? Tu te réveilles le matin, il y a un nuage au-dessus de ta tête, il y a des tonnerres au-dessus de ta tête, la tempête au-dessus de toi. Tu crains. Et tu dis ce mot parfois dans ta Bible, la crainte, que tu crains quelque chose qui va arriver. La dépression, les chagrins d'être déçu, la honte, la crainte. Toutes ces choses-là sont humaines et font partie de la vie. Tu sais comment je m'occupe de ces choses-là? Avec l'œuvre accomplie. C'est comme ça que je pense. Ça, c'est mauvais ici. Je pourrais être une vache qui va manger son herbe, brouter l'herbe. C'est que ça que je veux, mais je veux plus que ça. Ça, c'est mauvais. Où est Dieu? Et Dieu te dit, et à moi aussi, je suis sur ton bateau, je suis avec toi, je suis pour toi. Et on dit, oui Seigneur, immédiatement, tu es de l'autre côté. Ça ne signifie pas que les problèmes vont s'enlever, partir, que les nuages vont partir. Mais lorsque je commence à penser que j'ai la connaissance du Dieu Saint, ça ne signifie pas que toutes les choses vont s'annuler dans ma vie. Je ne dis pas cela non plus. Je dis, on a la communion avec Dieu et son œuvre accomplie. Et il nous dit, toutes ces choses-là sont faites pour nous. C'est notre position maintenant. Une place d'autorité, un endroit de privilège, d'honneur, d'être accepté, de partager la gloire de Dieu. Et de le connaître. Romains 8, chapitre 8. On va regarder, cette partie qui va se terminer, là, on va regarder. Romains chapitre 8, toutes choses de travail concourent au bien. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés, selon son dessein. Personne n'aime Dieu. Lorsque tu es sauvé, tu aimes Dieu. Personne n'aime Dieu. Romains chapitre 3, il n'y a personne qui aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu avec l'amour de Dieu. Mais avec Jésus, on a son amour. Maintenant, on aime Dieu. On est appelé selon son dessein. Parce qu'on est sauvé. Si on est sauvé, toutes choses concourent au bien. Tu peux questionner cela, mais peu importe Si tu veux argumenter ça ou pas, je ne crois pas ce que tu dis. Moi, je crois ce que la Bible dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui sont sauvés. Ça, c'est la signification de ce verset. Ils sont sauvés avec la promesse que toutes choses vont travailler ensemble pour le bien. C'est le plan de Dieu. Il est notre Père. Il travaille. Toutes choses. Ça, c'est un autre message. Verset 29. Qui il a préconnu, il a prédestiné de devenir conforme à l'image de son Fils. Ça ne peut pas être mieux que ça. Tu vas être comme Jésus. Ça, c'est une garantie. C'est une garantie, ça va se passer. Ça va se passer avec notre corps ressuscité de la terre. On sera comme lui. Et ça va se passer. Notre corps est enterré dans le cimetière. On a quitté notre corps. On est absent du corps. On est présent avec le Seigneur. Éphésiens 1, 21, on est présent avec le Seigneur. Pourquoi? À cause de notre, grâce à notre statut, on a été accepté. Ça s'est passé déjà. La porte est fermée, c'est accompli, c'est fini. La porte est fermée, elle reste fermée. Tu ne peux pas changer ça. C'est le temps dans le grec, aoris. Tu es assis dans le lieu céleste. Tu es déjà mort, c'est fini. C'est fini, c'est accompli, c'est terminé. Immédiatement, ça s'est passé. Immédiatement, lorsque tu as cru. C'est l'œuvre accomplie. C'est incroyable. Allez voir le verset 30. Romains 8, 30. On veut abréver. Qui l'a prédestiné? Il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Il les a glorifiés. C'est ce qui est unique à propos de ces cinq mots. Chacun de ces mots est accompli par Dieu. Aucun de ces mots n'est fait par vous ou moi. Qui est prédestiné? Qui nous prédestine? Dieu. Qui t'appelle? Qui te justifie? Qui te glorifie? Tout cela, c'est fait par Dieu. Est-ce que Dieu échoue? Dieu ne peut pas échouer. Fidèle est celui qui vous a appelé, il va le faire aussi. 1 Thessaloniciens 5, 24, c'est sûr et certain. C'est quoi le processus? C'est immédiatement, c'est fait, c'est accompli. Tu es déjà là, c'est terminé. C'est fini, tu es prédestiné, tu es appelé, tu es justifié, tu es glorifié. Un, deux, trois. Justifié et glorifié. Est-ce qu'on a les verset 29, préconnu à l'avance. Appelé, justifié, glorifié. Cinq mots ici. Tout cela accompli par Dieu. Verset 31. La partie que l'on va fermer, terminer avec. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à propos de ces choses-là? Pasteur Chibeli a prêché ça un jour. Je pouvais presque pleurer. Qu'est-ce que l'on peut dire à propos de ces choses les plus incroyables? Et qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ça? Si? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ces choses-là? La personne sauvage, il est dit dans un autre proverbe, cette sagesse est trop haute pour un fou. Le sauvage, qui vit une vie animale, comme un animal, il veut son repas. Il veut du sexe, il veut, peu importe ce que ses tripes lui disent, qu'il veut la personne qui vit comme un animal. Mais vous et moi, on a été créés par le Fils de Dieu. Il nous conforme à son image. Comment est-ce que je sais cela? Le salut, ça signifie la minute que tu crois, c'est fait, c'est accompli immédiatement. Et tu es immédiatement de l'autre côté. Comment est-ce que je suis arrivé là? J'ai accepté Christ, j'ai cru en Christ. Dieu a fait 68 de ces choses-là, ces écritures qui m'enseignent qui je suis, ce que j'ai reçu, qui nous sommes. Et comme on les absorbe, ces choses-là, ça devient notre façon de penser, ça devient une orientation pour notre vie. C'est ce que l'on parle ici. Alors, lorsqu'on devient de plus en plus mûr, on accroît dans la connaissance, on glorifie notre Père céleste. Il dit à ses anges, « Avez-vous fait attention à mon peuple? Avez-vous vu ce que je fais, la grâce que je déverse sur eux? Avez-vous vu la foi dans laquelle ils vivent, ce qui s'est passé là en bas sur la terre? » Les anges disent, « Oui, psaume 34, verset 7, on est autour, on campe autour de ceux qui te craignent. On témoigne, on est spirituel, on a discerné, on a vu, on le sait ça. À Baltimore, dans la ville, un jour qui fait chaud, en été, tu as des hamburgers sur ton jardin derrière, qu'est-ce qui vient? Tu fais cuire des hamburgers, les mouches qui viennent là, les mouches qui viennent, qui vont tourner autour des hamburgers. Si tu as une petite canette de Coca-Cola, ces petites boîtes en fer, qu'est-ce qui vient? Les abeilles. Comment est-ce qu'ils connaissent la différence? Pourquoi est-ce que les mouches de la viande ne vont pas sur la boîte de Coca-Cola et les abeilles? Parce qu'ils sont différents. Ils ne sont pas par le Saint-Esprit. Ils savaient Jésus lorsqu'il est venu. Beaucoup de démons sont venus. Ils se sont jetés à genoux devant Jésus. Ils ont dit, « Pars, toi le Saint d'Israël, va-t'en loin de... Je sais qui tu es Dieu. » Les démons savaient qui Jésus était. Ils savaient, acte 19, Jésus, on le connaît. Les démons ont dit ça. Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais ils ont dit à l'autre, « Toi, qui es-tu? » Les esprits savent. Si tu vis comme des animaux, comme un chien, comme un, et tu vas coucher au lit avec qui tu veux, avec les femmes, les chiens, les chats font ça. Mais les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont trouvé un trésor. Cette sainteté de Dieu, c'est notre joie, notre satisfaction, notre santé, notre communion. Et les anges, ils discernent et ils reconnaissent cela et ils campent autour de ceux qui craignent Dieu. Parce que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Qui est monté? Job a dit, je souhaiterais que mes mots soient enregistrés dans un livre que je pouvais écrire avec un stylo de fer sur un rocher. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que dans les jours plus tard, je vais me tenir debout. Dans ma chair, je le verrai. Il va se lever, être sur la terre dans les derniers jours. C'est ce qu'il a dit, Job. Les vers vont consumer mon corps. Je sais que dans ma chair, je le verrai. Ça, c'est l'évangile, n'est-ce pas? Job, comment est-ce que tu connais ces choses-là? Parce que je ne suis pas un chien. Je suis un homme de Dieu, un homme de foi. Le Saint-Esprit est fidèle pour nous montrer qui nous sommes. Et l'œuvre, dans l'œuvre accomplie, que ça a été fait. Chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, on a quelque chose qui se passe dans notre cœur, qui est de l'Esprit de Dieu. Marche par la foi, renie ta chair, qui ta chair n'a pas l'autorité sur toi. C'est une bonne partie. Est-ce que tu renies les choses de ta chair? Je me demande, peux-tu dire, bon, ça c'est ma chair, ma veste là, de mon costume. Je ne suis pas intéressé, reste là-bas. C'est comme la chaîne autour de mon cou ou la chaîne autour de mon pied. Je tire un boulet, quelque chose. Va-t'en. Je ne t'obéis pas à toi, ma chair. Ça, c'est ma chair. Je ne suis pas soumis à toi. Je te renie. J'ai besoin de confort. J'ai besoin de la satisfaction. Tu ne me donnes aucune satisfaction, toi. Dieu me donne de la satisfaction. Ecclésiaste 3, 11 et 12. L'homme moderne dans la culture dans laquelle on vit, c'est tout à propos de la chair, du confort, toi qui es satisfait, tes droits, tu as ce que tu veux, c'est à propos des gens qui te comprennent dans la chair. C'est tout ça uniquement. Et tu t'allonges dans les chagrins. Ésaïe 50, verset 11. tu t'allonges dans les chagrins. C'est pas étonnant que les gens prennent tellement de médicaments. Ils sont dans la dépression, dans les chagrins. Ils vont au docteur. En 10 minutes, ils te donnent tous ces médicaments. Et ils s'éloignent. Ils s'en vont du docteur avec des pilules qui te rendent joyeux. Je suis une vache qui veut brouter l'herbe. Je n'ai aucune réalité de Dieu dans ma vie. Je parle à propos de moi aussi, chacun d'entre nous. Bien sûr que nous sommes tous le même. Je suis le même que vous. Je ne parle pas contre quelqu'un, je parle pour tous d'entre nous. On ne doit faire aucune provision de la chair. On doit marcher par la foi en Dieu. J'ai arrêté de fumer de la marijuana, de la drogue par la foi. J'étais accroché de ça pendant plusieurs années. J'ai arrêté par la foi, il y a longtemps. Je ne sais pas où ça m'amène, mais maintenant, je ne fais pas de progrès avec ces choses-là de la chair. Je suis heureux, mais tout le monde peut être heureux. Tu prends de la drogue, tu peux être heureux. Qu'est-ce que tu as? Qui es-tu? Rien. Tu n'as rien. Est-ce que tu as une connaissance du Saint dans ton cœur, du Dieu le Tout-Puissant, celui qui t'a créé à son image? J'ai commencé à penser, OK, je vais aller marcher par la foi. Je ne sais pas comment ça va se marcher, se passer. Je vais par la foi. Et 50 années plus tard, donc c'était lui quand il était jeune. Je peux dire, éloigne-toi. Peu importe qui tu es, ce que tu vas me dire, j'ai autre chose qui se passe. Jésus est venu sur mon bateau, immédiatement j'étais de l'autre côté. C'est ça que tu ne peux jamais faire, toi. J'ai eu des batailles avec des tempêtes toute ma vie. Tu n'es rien pour moi. Ma chair n'a rien à me donner. Ma chair n'est pas la réponse pour ma vie. Ma chair, ce n'est pas ce que j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de pouponner ma chair. J'ai besoin de la crucifier. Je n'ai pas besoin d'en prendre soin, de la chérir. Ne me parle pas. Ce n'est pas ma vie. On a trouvé la connaissance du Dieu Saint. Une façon de vivre par la foi. Il y a des gens, je prêche comme ça. Il y a des gens, mais ils ne me croient pas. Ils continuent de leur façon de vivre. Ils terminent en prison, ils ont un accident de voiture, ils ont des problèmes. Tu te rappelles, Eric, celui qu'on appelait raccroche le téléphone il y a plusieurs années. Il était de la ville de Baltimore. Il était un drug dealer, dealer avec la drogue. Les gens lui téléphonaient. Eric, il a été sauvé. On lui a dit, raccroche le téléphone. Ne réponds pas le téléphone. Combien de fois je lui ai dit, je l'ai embarrassé, je lui ai dit devant, raccroche le téléphone, ne réponds pas. Combien de vous, vous vous rappelez de ça? C'est ma version modifiée. Il y a beaucoup de détails. Il était un jeune garçon très doux. Il a été tué. Il a été tué. Il est parti. C'est fini. On a essayé. Tout, on a essayé. On lui a dit, on a tout essayé. Probablement d'une façon ou d'une autre, on a eu un succès avec lui. C'est fini. OK. Peut-être tu ne me crois pas, mais je te dis, Jésus-Christ est la réponse pour la race humaine. Nos gens, les gens ne nous connaissent pas. On frappait aux portes hier en Pennsylvanie, Carlisle, Pennsylvanie, un peu plus loin là. On frappait devant le Porsche. Mon fils Kyle est avec moi, d'autres jeunes gens, des collèges, des étudiants du collège biblique. On a conduit là-bas. On s'est rencontrés avec d'autres gens et on évangélisait, on frappait aux portes. Cet homme m'a dit, il était très doux, plaisant. Il a dit, ma femme est athéiste, moi je suis un agnostique. Elle m'a dit, moi, sa femme était un athée. J'étais chez les baptistes, les religions. J'ai essayé tout ça. J'ai dit, je comprends ça. Mais Jésus est celui que tu as besoin. On a parlé avec lui comme ça. On a eu un rap session cet après-midi là-bas, hier. Donc, j'ai partagé cette illustration. Le monde, c'est comme un champ. Parfois, l'église aussi, c'est comme un champ. Tu dois essayer de trouver le trésor qui est enterré là. Parfois, tu trébuches. Tu dois trouver le trésor. Ton mariage peut être un champ. Ça peut être un marécage. Personne ne veut lever sa main. Ça peut être un marécage dans ton mariage que tu t'enfonces. On doit se réveiller. On doit trouver le champ. La chair n'a aucune idée comment trouver le trésor. La chair n'a aucune idée où trouver le trésor. Chaque jour, ils sont dans un monde. Le monde ne voit pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils font leurs choses à eux. La chair ne connaît pas Dieu. La chair ne peut pas trouver Dieu. Mais vous, vous pouvez. Vous et moi, nous sommes nés de nouveau afin que l'on puisse connaître Dieu comme notre Père. On dit « Abba, Père ». Nous sommes des gens de la foi. J'ai dit à cet homme hier, je lui ai dit « Je comprends les églises. Tu as entendu beaucoup de Bible. Mais attention, la Bible pourrait être utilisée comme un marteau par quelqu'un. Mais la Bible pourrait te condamner, mais la Bible pourrait te blesser aussi. Ce n'est pas de ce que l'on parle ici, mais on parle de trouver Dieu. Et Dieu est celui qui t'aime. Dieu est venu ici, il est mort pour toi, il est ton sauveur. Trouvez-le. Les églises ne sont pas parfaites, mais il y a un trésor qui est, et c'est lui. Amen.